C'est un des textes proposés à la méditation des églises ce jour que je vous propose de lire aujourd'hui et de méditer. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1, les versets 39 à 45. Juste après l'annonce de l'ange à Marie. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors voici, deux femmes sont enceintes, et elles n'auraient pas dû l'être. L'une est trop vieille, et l'autre est vierge. Élisabeth, l'épouse âgée de Zacharie, était stérile et le temps passant avait achevé d'éteindre tout espoir de maternité. Quant à Marie, la fiancée de Joseph, elle n'avait, dit Luc, jamais connu d'homme, elle n'avait jamais eu de relation sexuelle. Alors Luc n'écrit pas un scénario de film ou de série plus ou moins merveilleux, fantastique ou humoristique, où l'extraordinaire impossible est prétexte à dévoiler des ressorts, des préjugés, des états d'esprit, des comportements particuliers, leurs évolutions, tout cela pour inciter à une prise de conscience des ambiguïtés, des impasses et des ressources d'une société ou des personnes. Luc écrit un évangile, c'est-à-dire un récit de la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Et pour cela, il met en ordre, ainsi qu'il l'inscrit dès ses premiers mots, il met en ordre ce qu'il a reçu, entendu, compris, médité. Il interprète tout cela au fil de son récit dans des langages qui lui sont familiers, qui ne sont pas figés, particulièrement dans cet extrait, que premier chapitre, un langage souple qui ne se casse pas, qui ne brise ni ce qu'il porte, ni son destinataire, nous, aujourd'hui. Ce langage-là, dans les premiers chapitres, relève du mythe, une manière narrative de parler d'une vérité impossible à décrire exactement, impossible à définir car ce serait sa fin, la fin de sa capacité à interroger comme à être interrogé au fil du temps et des circonstances. La réponse à la question « Qui est Jésus le Christ ?» ne saurait être réduite à une formule quand il s'agit d'une quête. Ce que déjà la diversité des livres du Nouveau Testament donne de comprendre, une quête relancée jusque dans le présent, relancée pour chaque existence qui s'en saisit et s'implique dans cette quête, ses surprises, ses soulèvements, ses dépassements et aussi ses renoncements. Le langage du mythe n'est pas un langage qui arrête la pensée de la foi dans ses formules, dans ses images, mais il est une invitation, une occasion, une manière de lui donner, à la foi et à la pensée de la foi, profondeur, épaisseur et ampleur. Deux femmes enceintes et qui n'auraient pas dû, pas pu l'être. Le motif est riche, porteur lui-même de sens. Il l'est pour les deux enfants qui vont naître, signe de la fidélité divine au jaillissement de la vie, ce qui est aussi la puissance divine, un surgissement de vie donnant, ouvrant, désignant la vie, non pas la vie biologique, mais la vie vivante, la vie de la vie. Ainsi, ces deux enfants pas encore nés sont des êtres remarquables, exceptionnels, Jean, qu'on appelle le Baptiste, le fils d'Élisabeth, précédera, désignera, reconnaîtra en Jésus, le fils de Marie, le Christ, celui qui vient donner vie, la sienne, et donner vie à ceux qui manquent de vie véritable. Oui, c'est ainsi, une vie est semée en l'humain, comme une semence qui n'attend que de croître, de grandir, de venir au monde, d'être mise au monde. Et chacun de nous est appelé, est destiné à cette fécondité qui n'est soumise à aucune règle d'assignation, qui ne dépend d'aucune norme sociale ou religieuse. Deux femmes sont enceintes, et c'est chaque homme qui peut donner vie. C'est chaque femme qui peut engendrer. En chacun de nous, il y a à naître et à faire naître un fils ou une fille de Dieu. Luc interprète la bonne nouvelle en s'appuyant sur les écritures hébraïques qui le précèdent et qui l'a reçu. Plus qu'un appui, c'est même un ancrage pour sa propre écriture, une source, une mine, une ressource, pour une continuité comme pour une nouveauté. Ainsi, à travers les figures féminines du début de son évangile, Élisabeth et Marie, Luc n'invente pas, il reprend des noms, des figures, des motifs. Il puise dans un héritage pour le vivifier, pour l'honorer, pour l'offrir à son tour, autrement qu'il l'a reçu. Mais ce n'est pas une trahison, c'est la liberté de se laisser inspirer, de transformer, de donner au présent une vitalité reconnaissante envers l'héritage du passé. Élisabeth, eh bien Élisabeth, c'est le nom de l'épouse d'Aaron, le frère de Moïse, le premier grand prêtre. Et justement, Luc inscrit Élisabeth, épouse de Zacharie, prêtre au temple de Jérusalem, dans la descendance d'Aaron. Et cela lui est peut-être venu parce que le nom de Marie, mère de Jésus, c'est aussi le nom de Myriam, sœur d'Aaron et de Moïse. Ainsi, dans l'œuvre de Luc, Marie et Élisabeth sont-elles parentes, en relecture, en réappropriation des Écritures? Dans le parallèle qu'il trace soigneusement entre Jean et Jésus, qu'il enracine dans la foi et dans l'espérance du peuple juif, Luc garde cependant une prééminence pour Jésus, tissant ainsi, grâce aux Écritures hébraïques, un lien entre deux traditions messianiques, celle de la descendance d'Aaron avec Jean et celle de la descendance de David avec Jésus, et alliant ainsi en reconnaissance mutuelle les disciples du Baptiste et ceux du Nazaréen. Luc parsème son récit de référence, d'écho scripturaire, pas aussi explicitement que Matthieu, mais ils sont bien présents, ainsi que le regretté théologien américain John Shelby Spong en rendait compte dans plusieurs de ses ouvrages. Reprise, relecture, réinterprétation, qui ne concentre pas les lecteurs sur le passé ou sur le merveilleux, mais qui représente de véritables assises pour reconnaître et penser l'aujourd'hui de la fidélité du Dieu vivant, du Dieu des vivants. Alors voici, Marie rend visite à Élisabeth, sa parente. La visitée devient visiteuse. La visite de l'ange à Marie pousse Marie à visiter Élisabeth. Et qu'est-ce qu'une visite, sinon une manière de se rendre présent à autrui? Marie a été visitée par l'ange. Manière de dire que Dieu s'est rendu présent pour elle, en elle, ce dont rend compte, par exemple, la parole de l'ange « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre », ce qui évoque l'Esprit dans le mythe du premier chapitre de la Genèse, l'Esprit qui tournoyait à la surface des eaux. Puisqu'il s'agit bien d'une création à travers la venue au monde de Jésus. Et cette visite de Dieu, de l'ange de Dieu à Marie, produit des mouvements, des relations, des liens, d'autres visites, des présences à autrui. Et l'expérience de Marie, selon Luc, est éclairante pour toutes les expériences de croyants. Un surgissement intérieur dans l'intimité de l'être, d'une parole, un surgissement d'une grâce qui engendre une transformation du mouvement, de la rencontre. Marie, porteuse de Jésus qui est le Christ, se hâte vers Élisabeth, porteuse de Jean le précurseur. Mais c'est chacun de nous qui peut être porteur de parole, de grâce, du Christ même. Chacun de nous peut être ce Christophore, porteur de Christ et porté vers d'autres. Et c'est ainsi que Marie salue Élisabeth. Nous ne savons pas de quelle manière le texte signale simplement une salutation. Quoi de plus ordinaire qu'une salutation ? Il s'en est échangé un certain nombre ici, juste avant le culte. La salutation de Marie est la salutation d'une porteuse de grâce, d'une porteuse de Christ. Et nos salutations d'aujourd'hui et de demain, nos salutations quotidiennes, ordinaires, peuvent tout à fait recéler quelque chose de la grâce, du Christ qui est salut pour tous. Car une salutation est une parole de reconnaissance et de souci de l'autre. Et en cela, oui, elle porte quelque chose d'un salut. Marie visite Élisabeth. Elle ne peut rester seule avec ce que l'ange lui a annoncé pour elle-même et pour Élisabeth, que quelque chose de divin prend corps en elle et en Élisabeth. Mais comme en chacun de nous. Fécondité que personne ne maîtrise, dont personne ne décide, parce qu'elle ne peut qu'être acceptée, même après discussion. Fécondité qui relève non d'une ambition ou d'un projet, mais d'une vocation. Et il y a là une source de joie, et donc de partage, puisqu'il n'est pas de joie qui ne se partage pas. La joie de la vie semée en soi, la joie de la vie semée en l'autre, et nous nous retrouvons, par exemple le dimanche, au culte, pour partager, pour exprimer la joie, l'émerveillement, la gratitude, l'expérience spirituelle, l'expérience de la vie jaillissante, chaque culte et célébration de Pâques. Marie visite Élisabeth. Elle se fait parole et présence pour sa parente, parce qu'une parole et une présence l'ont visitée et se tiennent au creux d'elle-même. Ce n'est pas réservé à Marie. C'est notre vocation de porter la parole et de la mettre au monde par l'esprit donné dans notre humanité, et cela mobilise la personne entière, le corps, l'intelligence, l'esprit, les forces, les émotions, tout ce qui fait une personne. Marie, la jeune fille fiancée, et Élisabeth, l'épouse stérile, ont été affranchies de leur destin pour entrer dans une destinée nouvelle par la grâce d'un oui à la vie, à leur vie. Un oui contre toute fatalité, contre la morale, contre le passage du temps, contre l'absurdité du monde. Rien n'est impossible à Dieu, avait dit l'ange à Marie. Et il n'est jamais non plus trop tard pour Dieu. Chacun peut se trouver trop jeune ou trop vieux, pas assez fort, pas assez croyant, ou trop coupable, ou trop indigne. Mais Dieu ne nous juge pas tel que nous nous jugeons. Et son jugement à lui, c'est d'appeler chacun de nous à lui faire place en lui-même. Alors voici, Élisabeth bénit Marie. Béni sois-tu entre les femmes. Une bénédiction redoublée d'une béatitude. Heureuse celle qui a cru que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Béni est Marie qui a trouvé grâce auprès de Dieu, avait dit l'ange, et c'était déjà aussi une bénédiction. Et nous nous souvenons, non, nous vivons en ce moment qu'au culte, la première parole est celle de la grâce donnée à chacun de la part de Dieu, et la dernière parole est celle de la bénédiction de la part de Dieu. Le cri d'Élisabeth est motivé par le tressaillement de l'enfant en elle, un tressaillement d'allégresse, précise-t-elle, comme si l'enfant Jean, pas encore né, reconnaissait Jésus, l'enfant, l'autre enfant, pas encore né. Le précurseur reconnaît celui qui vient après lui et qui est plus grand que lui. Et Élisabeth interprète ce tressaillement, rempli d'Esprit Saint qu'elle est, ce même esprit qui avait recouvert Marie selon la parole de l'ange, un esprit qui fait passer la vie, qui féconde la vie, qui permet de la transmettre et de la reconnaître et de s'en réjouir avec d'autres. La grâce en nous reconnaît la grâce en l'autre, sans mesurer, sans comparer. Entre les femmes, oui, mais ce n'est pas au détriment des autres femmes que Marie est bénie, et ce n'est pas non plus beaucoup plus que les autres femmes qui sont appelées à laisser le Christ grandir en elles et à mettre au monde leur existence renouvelée, et les hommes aussi, n'est-ce pas ? La vie vivante reconnaît la vie vivante, sans juger. La bénédiction est reconnaissance et affirmation de la valeur d'une personne dont l'existence singulière, quelle qu'elle soit, est inscrite sur un fondement et un horizon de bonté et de grâce. Une existence considérée dans une espérance qui déborde tout. La bénédiction, c'est une attention favorable à l'autre, une attention qui se tient dans la proximité de Dieu et qui ouvre à la proximité de Dieu. Et c'est ainsi que nos salutations quotidiennes peuvent aussi porter une bénédiction, parce que le domaine de la bénédiction, c'est justement le quotidien et les relations entre personnes. Béni sois-tu entre les femmes. Et pourtant Marie verra son fils mis à mort, et celui d'Élisabeth mourra aussi de mort violente. La bénédiction ne garantit rien. Elle ne met pas à l'abri des malheurs ni des contingences. Elle ne crée pas une bulle de protection. Elle n'efface pas la réalité cruelle. Mais elle ouvre comme un espace superposé. Un peu comme une bougie dans une vaste pièce obscure ne chasse pas toute l'obscurité, mais offre un autre espace, un espace de lumière, et alors il n'y a pas que l'obscurité. De même qu'Élisabeth bénit Marie, de même qu'en venant visiter Élisabeth, Marie a brisé l'isolement dans lequel Élisabeth s'était confinée depuis le début de sa grossesse et est devenue bénédiction pour Élisabeth. Bénir autrui est une attitude d'humanité et d'espérance qui naît de la parole, de la présence divine en soi et qui imprègne le regard sur autrui. Ce n'est pas une illusion idéaliste, ce n'est pas une naïveté enfantine, c'est de l'espérance, enracinée dans la visite, dans la présence, dans l'engagement de Dieu. Un engagement que Jésus, le Fils de Marie, le Christ, a incarné selon Luc de la crèche à la croix. Et l'engagement a été maintenu au-delà de la croix. La bénédiction, c'est de la confiance que l'avenir d'une personne, mais l'avenir aussi du monde, est porté en vérité par ce bien, ce bon dit sur elle ou sur lui. Tout le contraire de l'abandon, de la condamnation, de l'exclusion, du mépris qui défend le présent et l'avenir, les relations et l'humanité. Celui qui bénit a compris que la présence divine en elle, en lui, n'est pas une possession, mais une orientation vers autrui. Il ou elle a compris que la parole se met en elle, en lui, pour qu'elle y grandisse, pour qu'elle fasse grandir et vivre. Cette parole n'est pas une conquête, ni un profit, mais une source de bien pour autrui. Deux femmes enceintes qui échangent salutations et bénédictions. Oh, il ne s'agit pas seulement de Marie et d'Élisabeth. Il n'y a pas non plus que les Christophe, Christine ou Christian qui portent le Christ dans leur prénom même qui soient concernés. Bénédiction, allégresse, béatitude jaillissent de la rencontre entre deux personnes porteuses d'une vocation à donner la vie, à faire passer la vie vivante de salutation en bénédiction. Bénédiction, allégresse et béatitude jaillissent de la reconnaissance mutuelle que par l'Esprit, par le Christ, Dieu vient féconder nos existences, nos journées, nos rencontres, nos salutations, nos manières de vivre ensemble. Et cela, c'est bon, c'est très bon. Amen.